Laurent Romary, donc nous avons le plaisir d'avoir à l'écran. Après, je fais un petit CV rapide. Après une carrière de chercheur en traitement des langues et maintenant directeur de la culture et de la formation scientifique à INRIA, coordonne en particulier la politique de sciences ouvertes, de le Learning Lab et la médiation scientifique. Il va nous présenter la nouvelle édition du baromètre de la science ouverte conçu par le MESRI, l'Université de Lorraine et INRIA. En particulier, il va aborder les nouveautés technologiques pour le repérage des références, de références à des jeux de données et des logiciels dans des publications, ainsi que les possibilités de dérivation de baromètres institutionnels. Je rappelle que le baromètre de la science ouverte a été créé comme un instrument en 2019 avec le premier plan national pour la science ouverte. Et je vais lui laisser immédiatement la parole.
Alors, entre-temps, j'ai partagé mon écran. Merci beaucoup pour cette introduction. Vous voyez bien mes transparents, comme je n'ai pas de retour visuel sur Teams.
Oui, on le voit très bien à l'écran.
C'est parfait. Donc, encore toutes mes excuses de ne pas être avec vous. Je le regrette vraiment parce que je m'étais fait une joie de compter cette communauté, de continuer les échanges à partir des différentes présentations. Et je vois que ma présentation avait même un lien avec la précédente concernant Commons, où on a parlé du lien données et publication. Alors, je vais vous faire une présentation qui est à la fois un peu corporate, on dirait en langage administratif, parce que c'est issu d'un jeu de transparent qu'on a co-construit avec les collègues de l'Université de Lorraine et du ministère qui travaillent sur ce baromètre de la science ouverte. Et puis, avec un élément assez personnel sur la fin autour du repérage des jeux de données et des logiciels, parce que c'est quelque chose qui m'importe depuis déjà pas mal d'années et je serai disponible pour répondre à des questions un petit peu plus précises. Au cas où ça vous intéresse. Alors déjà un point je regarde ma montre et je vais essayer de rattraper un peu de temps, de contexte. Donc vous êtes tous au courant du Plan national pour la science ouverte, dont la deuxième édition a déjà quelques mois maintenant, et qui vise à ouvrir largement l'ensemble des produits de la recherche scientifique, afin d'aller vers une science plus transparente. Et puis la possibilité aussi de mesurer les conséquences d'une politique de science ouverte sur le temps long. Donc c'est tout l'objet du baromètre de la science ouverte, c'est d'avoir un outil qui soit d'abord souverain, c'est-à-dire qu'on ne dépende pas de bases privées pour pouvoir le mettre en place, qui permet d'affiner les politiques publiques de science ouverte, donc d'évaluer combien les institutions, les différents domaines scientifiques s'impliquent en sciences ouvertes et font progresser l'ouverture de leurs publications, de leurs jeux de données ou de leurs logiciels. Et puis, globalement, c'est un outil pour améliorer la connaissance sur les productions scientifiques françaises. Parce que, au fur et à mesure qu'on a travaillé sur ce baromètre de la science ouverte, on s'est aperçu qu'on créait en fait des bases de données de référence qui peuvent être exploitées à d'autres fins que simplement produire les indicateurs dont on va parler là au niveau du baromètre. Alors, je parlais je n'ai pas utilisé le mot encore, mais je le pensais très fort, de souveraineté par rapport à ce qu'on veut faire. Donc, il s'agit d'échapper à la réutilisation de données qui sont disponibles sur le Web of Science, sur Scopus, pour pouvoir créer un fonds qui soit complètement indépendant et à partir de ça, mettre en œuvre des outils de fouille de données, des outils d'intelligence artificielle, d'apprentissage machine, de machine learning, pour pouvoir extraire un certain nombre d'informations sur ces ressources. Alors, il y a différents niveaux d'activité. Il y a le fait de récupérer un maximum de métadonnées concernant les publications afin d'identifier ce qui correspond à de la production française, d'identifier les domaines concernés et puis aussi de pouvoir repérer les articles qui sont effectivement en sciences ouvertes, qui sont disponibles à la fois pour pouvoir effectuer des statistiques sur le degré d'ouverture, sur la qualité de l'ouverture, si c'est de l'ouverture en archives ouvertes, si c'est de l'ouverture sur le site des éditeurs privés, mais aussi pour pouvoir récupérer les matériaux correspondants afin de faire de la fouille de données, d'extraire l'information qui sont dans les PDF eux-mêmes. Donc on a cette donnée d'affiliation pour la caractérisation du pays concerné, qu'est-ce qui correspond à la production française, caractérisation de l'accès ouvert et la classification thématique qui vient au-dessus de façon à avoir un diagnostic plus fin au niveau de l'ouverture. On verra ça sur un exemple. Donc, histoire rapide du baromètre, on en est déjà, entre nous, on appelle toujours ça le BSO3 et officiellement, c'est un seul et même baromètre avec des publications successives. Mais vous voyez qu'à partir d'un baromètre initial dont vous avez peut-être entendu parler juste avec un degré d'ouverture, il y a eu une phase, notamment en lien avec la pandémie, où on a travaillé sur un baromètre santé, notamment pour voir les taux d'ouverture d'essais cliniques. Et puis, on a, depuis maintenant 18 mois, travaillé sur cette identification, sur le repérage des jeux de données et des logiciels dans les publications scientifiques. Alors, un petit point sur les résultats 2022. Le baromètre qui est sorti officiellement en février ou en mars, je ne suis plus sûr de la date. Ce qui est vraiment caractéristique, c'est qu'on voit une montée très très forte. J'ai un retour de micro. On voit une montée très très forte du taux en accès ouverte. Hein. Entre 2018, on avait 38% et maintenant 67% en 2022. Alors, c'est un taux, à chaque fois, il faut regarder les définitions précisément. J'insiste là-dessus maintenant, mais ça sera vrai pour l'ensemble des chiffres que je montrerai plus tard.
Pardon de vous interrompre. Oui. Un petit instant. En fait, les slides ne défilent pas chez nous. On est bloqué sur une seule slide.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter mon partage d'écran et je vais revenir. Moi, ça défile très bien chez moi. Alors...
On était bloqué sur la première.
D'accord. C'est dommage, il y a de jolies couleurs là sur celle-là. Alors, attendez, j'essaye d'arrêter le diaporama. D'arrêter le partage et de revenir. Je mets un retour visuel sur ce que vous voyez ou pas parce que...
On vous a à l'écran, simplement.
Ah, vous n'avez même plus les slides, là, c'est ça?
On n'a plus les slides, non. L'écran n'est pas partagé.
Je recommence.
Ça y est, ça apparaît.
Est-ce qu'il faut essayer le slide peut-être?
Est-ce qu'on peut essayer de faire de défiler, de passer d'un slide à l'autre pour voir si ça fonctionne?
On va faire comme ça. Et je vais rester en mode, là je passe au suivant, publication par discipline. Là j'étais dans les taux d'accès ouvert que j'étais en train de commenter.
Eh bien, c'est parfait, là ça a l'air de fonctionner.
Je ne vais pas passer en mode plein écran, je vais rester comme ça si c'est...
Je pense que ce n'est pas dérangeant, hein, si vous êtes tous d'accord. Oui, ça ira très bien.
Ok, on ferait comme ça alors. Là, vous voyez là, ben justement les publications par discipline. Vous voyez les taux d'ouverture avec des gros rattrapages. On avait en 2018, je pense notamment aux sciences humaines et à la chimie qui étaient très, très bas et qui ont fait un énorme rattrapage en termes de taux d'ouverture. C'est vraiment des résultats intéressants, notamment pour la chimie, parce qu'il y a eu un changement véritablement culturel dans un certain nombre de sous-communautés de chimie qui se sont mis à fond, notamment dans le dépôt en archives ouvertes. Transparent suivant, très très vite sur les essais cliniques, c'est quelque chose qui reste une déception en termes de politique de sciences ouvertes parce que en lien avec la pandémie, on pensait pouvoir accélérer les taux d'ouverture d'essais cliniques et vous voyez que quand il y a un promoteur académique, seuls 31% des essais cliniques sont diffusés. On parle bien des déclarations d'essais cliniques. Alors, pour les nouveautés 2022, je vais très vite. Il y a eu un nouvel indicateur lié aux thèses en accès ouvert, donc par rapport à l'année de soutenance et observé en 2022, avec un taux qui reste, en analyse personnelle, assez bas, je trouve, de 75%, c'est-à-dire qu'il y a encore, parce qu'on n'est pas à 25% de travaux de doctorat qui nécessitent un secret par rapport à la production. Donc, c'est vraiment lié à des pratiques, notamment des pratiques de publication de livres après, qui ralentissent l'ouverture des thèses. Mais je vais surtout me focaliser sur les données et les codes, qui a été le travail d'exploration au départ, parce qu'on n'était pas sûr des résultats, et finalement qui produit quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer sur le temps long maintenant. Donc, il s'agit d'une équipe resserrée entre l'Université de Lorraine, le ministère d'enseignement supérieur et de la recherche INRIA. On a mis en place un comité de pilotage avec, en quelque sorte, la paire Marin Dacos et Isabelle Blanc qui nous suivent et qui nous accompagnent dans ce développement technique, et un comité technique et d'usage avec Grenoble, l'INIST et des représentants du COSO pour pouvoir évaluer les résultats et la pertinence technologique de nos développements. Alors, pour aller assez vite, l'idée, c'est de faire deux choses. C'est-à-dire d'identifier dans le texte intégral des publications les paragraphes, les séquences de texte où il y a des éléments qui permettent de dire cette séquence fait référence à un jeu de données ou cette séquence fait référence à un logiciel. Logiciel, pas nécessairement code source du logiciel, parce qu'il peut y avoir toute une palette de contributions logicielles qui ne sont pas nécessairement ouvertes. Mais pour aller plus loin, je reviendrai là-dessus, on va caractériser ces mentions en disant, bon, on utilise un jeu de données ou un logiciel. L'article scientifique signale la production ou la création de l'objet correspondant, ou même on a un signalement de partage. Alors, comment on détecte ça? Ben, c'est du machine learning, c'est-à-dire que on s'est appuyé sur des corpus, je vais présenter ça juste après, qui ont permis de détecter les contextes linguistiques dans lesquels ces éléments sont présentés. Ensuite, extraire des informations plus fines. On voit l'exemple ici qui permet de repérer qui est l'éditeur du logiciel, quelle est la version du logiciel, éventuellement l'URL du logiciel si elle est mentionnée, pour aller un petit peu plus loin. Il faut bien se rendre compte que logiciel et données, même si je présente les deux en parallèle, ont des caractéristiques très différentes. Le logiciel est souvent nommé à des métadonnées qui sont mentionnées dans le texte assez fines, alors que les jeux de données peuvent être très succinctement évoqués. On a fait une expérience avec 15 malades et on a observé tel paramètre. On n'a pas un jeu de données avec un nom explicite. Et on est encore très loin de pouvoir faire le lien, je reviendrai là-dessus aussi, avec les bases de données. Donc, les trois mentions, et ce qui est important, c'est ces deux corpus qui ont servi d'apprentissage, qui ont été des corpus développés sur plusieurs années. Hein. Le plus vieux des deux a 5 ans maintenant. Il a été augmenté dans le cadre du travail qu'on a mené sur le baromètre. Et j'insiste là-dessus pour dire qu'un travail de ce type, c'est quelque chose qui doit être fait sur le temps long pour pouvoir accumuler des données, parce que l'identification, notamment d'un logiciel dans une publication, est quelque chose qui n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de publications qui ne parlent pas de logiciel, et même une publication qui parle d'un logiciel ne va le mentionner que sur 2 ou 3 paragraphes. Et quand on va faire de l'apprentissage, il faut à la fois des données positives, c'est-à-dire des paragraphes qui mentionnent bien les logiciels, mais surtout aussi des données négatives, avoir des paragraphes où on est sûr qu'il n'y ait pas de référence à un logiciel pour pouvoir faire des corpus d'apprentissage qui vont permettre de ne pas créer, par exemple, trop de positifs. Si on n'apprend que sur des paragraphes qui mentionnent des logiciels, on se retrouve avec un comportement un petit peu bizarre, du module correspondant. Ce qu'on a mis en place pour ce faire, c'est un environnement aussi d'annotation. Donc, l'objectif sur le temps long, c'est de faire en sorte que certaines communautés qui sont sous-représentées ou mal représentées dans le corpus d'apprentissage disent ben, nous, on veut rajouter un certain nombre d'éléments qui caractérisent notre communauté. Et donc, on a un outil en ligne qui permet d'annoter les paragraphes correspondants, disant là, il y a tel logiciel, et d'aller plus finement identifier les objets correspondants. Donc, voilà le type de résultat qu'on a obtenu avec cette manif. Donc, vous voyez qu'on a quand même des résultats qui sont impressionnants, puisqu'on a 22% des publications françaises qui font état d'une production de données, donc qui en mentionnent le partage effectif en 2021. Et du point de vue des logiciels, on arrive à 20% d'articles. C'est encore plus impressionnant de mon point de vue, parce que c'est assez naturel d'aller vers le partage de jeux de données, mais un peu moins en termes de logiciels. Donc, on en est à 20% d'articles qui mentionnent le partage de code ou de logiciels en 2021. Alors, dernier point pour conclure, cette activité qui est assez lourde, je passe sur les baromètres locaux parce qu'on est un petit peu en retard, mais je pourrais répondre à des questions à ce sujet-là. Je me mets sur les perspectives. N'est qu'à son commencement, donc on a en gros deux grandes pistes de développement maintenant pour cette partie jeux de données et logiciels au sein du baromètre de la science ouverte. D'abord, bien sûr, ça doit tous vous venir en tête. Il faut se rapprocher, il faut rapprocher les informations qu'on extrait des articles scientifiques des entrepôts existants. Donc, on travaille au moissonnage de data sites et à l'alignement des extractions avec des entrées data sites qui pourraient être éventuellement mentionnées, par exemple par rapprochement des palettes d'auteurs qui sont associées. Il y a bien sûr une synergie, on y travaille avec Isabelle Blanc, avec Recherche DataGouv. Ce qui n'est pas dans ce transparent, c'est que, bien sûr aussi pour le logiciel, on travaille étroitement avec Software Heritage pour pouvoir repérer tout ce qui est en source ouverte et pouvoir établir des liens avec ce qu'on extrait avec les articles. Et puis on s'est aperçu en fait que ce qui a été fait dans ce domaine-là au sein du baromètre est absolument unique au niveau international. Et donc, on a de nombreux contacts, c'est même une des complexités actuellement du projet qu'on doit gérer, à qui on doit montrer les technologies et convaincre aussi de travailler avec nous pour fouiller aussi leurs propres données. Donc, on travaille avec l'UNESCO, on travaille avec des initiatives internationales telles qu'OpenAlex et puis avec des pays spécifiques qui nous ont contactés. Je fais juste un point pour justifier aussi cette collaboration sur la lourdeur en fait de cette activité. Je conclurai là-dessus. Au final, pour faire ce baromètre actuellement, on n'a pas réussi à fouiller plus des deux tiers des articles ouverts disponibles à cause des limitations moyens de calcul. C'est pour vous dire l'étendue, la complexité du travail informatique qu'il y a derrière. Et donc, si on travaille en collaboration, c'est pour permettre à d'autres institutions, d'autres pays, par exemple le Japon, de dire ben, on va récupérer nos propres publications et on va faire ce travail d'extraction du repérage des jeux de données et des logiciels. Je vous remercie. C'est un petit peu bizarre, je n'ai pas du tout de retour visuel sur la salle. Mais j'espère que c'était minimalement clair.